Chapitre 67. Londres. Lorsque le bruit des chevaux se fut perdu dans le lointain, d'Artagnan regagna le bord de la rivière et se mit à arpenter la plaine en s'orientant autant que possible sur Londres. Ses trois amis le suivirent en silence jusqu'à ce qu'à l'aide d'un large demi-cercle, ils eussent laissé la ville loin derrière eux. « Pour cette fois, dit d'Artagnan, lorsqu'il se crut enfin assez loin du point de départ pour passer du galop au trot, je crois bien que décidément tout est perdu et que ce que nous avons de mieux à faire est de gagner la France. Que dites-vous de la proposition, Athos? Ne la trouvez-vous point raisonnable ?»« Oui, cher ami, répondit Athos, mais vous avez prononcé l'autre jour une parole plus que raisonnable, une parole noble et généreuse. Vous avez dit « Nous mourons ici ». Je vous rappellerai votre parole. Oh, dit Porthos, la mort n'est rien, et ce n'est pas la mort qui doit nous inquiéter, puisque nous ne savons pas ce que c'est. Mais c'est l'idée d'une défaite qui me tourmente. À la façon dont les choses tournent, je vois qu'il nous faudra livrer bataille à Londres, aux provinces, à toute l'Angleterre, et en vérité, nous ne pouvons, à la fin, manquer d'être battus. Nous devons assister à cette grande tragédie jusqu'à la fin, dit Athos. Quel qu'il soit, ne quittons l'Angleterre qu'après le dénouement. Pensez-vous comme moi, Aramis? En tout point, mon cher comte. Puis, je vous avoue que je ne serai pas fâché de retrouver le Mordaunt. Il me semble que nous avons un compte à régler avec lui et que ce n'est pas notre habitude de quitter les pays sans payer ces sortes de dettes. Ah, ceci est autre chose, dit d'Artagnan, et voilà une raison qui me paraît plausible. J'avoue, quant à moi, que pour retrouver le Mordaunt en question, je resterai, s'il le faut, un an à Londres. Seulement, logeons-nous chez un homme sûr, et de façon à n'éveiller aucun soupçon. Car, à cette heure, M. Cromwell doit nous faire chercher, et autant que j'en ai pu juger, il ne plaisante pas, M. Cromwell. Athos, connaissez-vous dans toute la ville une auberge où l'on trouve des draps blancs, du roast beef raisonnablement cuit, et du vin qui ne soit pas fait avec du houblon ou du genièvre. Je crois que j'ai votre affaire, dit Athos. De Winter nous a conduits chez un homme qu'il disait être un ancien Espagnol naturalisé anglais de par les Guinées de ses nouveaux compatriotes. Qu'en dites-vous, Aramis? Mais le projet de nous arrêter chez El Señor Pérez me paraît des plus raisonnables. Je l'adopte pour mon compte. Nous invoquerons le souvenir de ce pauvre de Winter pour lequel il paraissait avoir une grande vénération. Nous lui dirons que nous venons en amateur pour voir ce qui se passe. Nous dépenserons chez lui chacun une guinée par jour et je crois que, moyennant toutes ces précautions, nous pourrons demeurer assez tranquilles. Vous en oubliez une, Aramis, et une précaution assez importante même. Laquelle? Celle de changer d'habit. « Bah, dit Porthos, pourquoi faire changer d'habit? Nous sommes si bien à notre aise dans ceci. »« Pour ne pas être reconnus, dit d'Artagnan. Nos habits ont une coupe et presque une couleur uniforme qui dénonce leur Frenchman à la première vue. Or, je ne tiens pas assez à la coupe de mon pourpoint ou à la couleur de mes chausses pour risquer, par amour pour elle, d'être pendu à Tyburn ou d'aller faire un tour aux Indes. Je vais m'acheter un habit marron. » J'ai remarqué que tous ces imbéciles de puritains raffolaient de cette couleur. Mais retrouverez-vous votre homme? Dit Aramis. Oh, certainement. Il demeurait Green Hall Street, Bedford Tavern. D'ailleurs, j'irai dans la cité les yeux fermés. Je voudrais déjà y être, dit d'Artagnan. Et mon avis serait d'arriver à Londres avant le jour, dussions-nous crever nos chevaux. Allons donc, dit Athos. Car, si je ne me trompe pas dans mes calculs, nous ne devons guère en être éloignés que de 8 à 10 lieues. Les amis pressèrent leurs chevaux, et, effectivement, ils arrivèrent vers les 5 heures du matin. À la porte par laquelle ils se présentèrent, un poste les arrêta. Mais Athos répondit en excellent anglais qu'ils étaient envoyés par le colonel Harrison pour prévenir son collègue, M. Pride, de l'arrivée prochaine du roi. Cette réponse amena quelques questions sur la prise du roi, et Athos donna des détails si précis et si positifs que, si les gardiens des portes avaient quelques soupçons, ces soupçons s'évanouirent complètement. Le passage fut donc livré aux quatre amis avec toutes sortes de congratulations puritaines. Athos avait dit vrai. Il alla droit à Bedford's Tavern et se fit reconnaître de l'hôte, qui fut si fort enchanté de le voir revenir en si nombreuse et si belle compagnie qu'il fit préparer à l'instant même ses plus belles chambres. Quoiqu'il ne fît pas jour encore, nos quatre voyageurs, en arrivant à Londres, avaient trouvé toute la ville en rumeur. Le bruit que le roi, ramené par le colonel Harrison, s'acheminait vers la capitale, s'était répandu dès la veille, et beaucoup ne s'étaient point couchés, de peur que le Stuart, comme il l'appelait, n'arrivât dans la nuit et qu'il ne manquasse son entrée. Le projet de changement d'habit avait été adopté à l'unanimité, on se le rappelle, moins la légère opposition de Porthos. On s'occupa donc de le mettre à exécution. L'hôte se fit apporter des vêtements de toutes sortes, comme s'il voulait remonter sa garde-robe. Athos prit un habit noir qui lui donnait l'air d'un honnête bourgeois. Aramis, qui ne voulait pas quitter l'épée, choisit un habit foncé de coupe militaire. Porthos fut séduit par un pourpoint rouge et par des chausses vertes. D'Artagnan, dont la couleur était arrêtée d'avance, n'eut qu'à s'occuper de la nuance et, sous l'habit marron qu'il convoitait, représenta assez exactement un marchand de sucre retiré. Quant à Grimaud et à Mousqueton, qui ne portaient pas de livrée, ils se trouvèrent tout déguisés. Grimaud, d'ailleurs, offrait le type calme, sec et raide de l'anglais circonspect. Mousqueton, celui de l'anglais, ventru, bouffi et flâneur. « Maintenant, dit d'Artagnan, passons au principal. Coupons-nous les cheveux afin de n'être point insultés par la populace. N'étant plus gentilshommes par l'épée, soyons puritains par la coiffure. C'est, vous le savez, le point important qui sépare le covenantaire du cavalier. » Sur ce point important, d'Artagnan trouva Aramis fort insoumis. Il voulait à toute force garder sa chevelure, qu'il avait fort belle et dont il prenait le plus grand soin, et il fallut qu'Athos, à qui toutes ces questions étaient indifférentes, lui donna l'exemple. Porthos livra sans difficulté son chef à Mousqueton, qui tailla à plein ciseau dans l'épaisse et rude chevelure. D'Artagnan se découpa lui-même une tête de fantaisie qui ne ressemblait pas mal à une médaille du temps de François Ier ou de Charles IX. « Nous sommes affreux, dit Athos. « Et il me semble que nous puons le puritain à faire frémir, dit Aramis. « J'ai froid à la tête, dit Porthos. « Et moi, je me sens envie de prêcher, dit d'Artagnan. « Maintenant, dit Athos, que nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes et que nous n'avons point par conséquent la crainte que les autres nous reconnaissent, allons voir entrer le roi. S'il a marché toute la nuit, il ne doit pas être loin de Londres. » En effet, les quatre amis n'étaient pas mêlés depuis 2 heures à la foule que de grands cris et un grand mouvement annoncèrent que Charles arrivait. On avait envoyé un carrosse au-devant de lui, et de loin le gigantesque Porthos, qui dépassait de la tête toutes les têtes, annonça qu'il voyait venir le carrosse royal. D'Artagnan se dressa sur la pointe des pieds, tandis qu'Athos et Aramis écoutaient, pour tâcher de se rendre compte eux-mêmes de l'opinion générale. Le carrosse passa, et D'Artagnan reconnut Harrison à une portière et Mordaunt à l'autre. Quant au peuple, dont Athos et Aramis étudiaient les impressions, ils lançaient force imprécations contre Charles. Athos rentra désespéré. « Mon cher, lui dit D'Artagnan, vous vous entêtez inutilement et je vous proteste, moi, que la position est mauvaise. Pour mon compte, je ne m'y attache qu'à cause de vous et par un certain intérêt d'artiste en politique à la mousquetaire. Je trouve qu'il serait très plaisant d'arracher leur proie à tous ces hurleurs et de se moquer d'eux. J'y songerai. » Dès le lendemain, en se mettant à sa fenêtre qui donnait sur les quartiers les plus populeux de la cité, Athos entendit crier le bill du Parlement qui traduisait à la barre l'ex-roi Charles Ier, coupable présumé de trahison et d'abus de pouvoir. D'Artagnan était près de lui. Aramis consultait une carte. Porthos était absorbé dans les dernières délices d'un succulent déjeuner. « Le Parlement !» s'écria Athos. « Il n'est pas possible que le Parlement ait rendu un pareil bill. » « Écoutez, dit d'Artagnan, je comprends peu l'anglais, mais comme l'anglais n'est que du français mal prononcé, voici ce que j'entends. Parliaments bill, ce qui veut dire bill du Parlement ou Dieu me donne, comme ils disent ici. » En ce moment, l'hôte entrait. Athos lui fit signe de venir. « Le Parlement a rendu ce bill ?» lui demanda Athos en anglais. « Oui, milord, le Parlement pur. » « Comment le Parlement pur? Il y a donc deux parlements ?»« Mon ami, interrompit d'Artagnan, comme je n'entends pas l'anglais, mais que nous entendons tous l'espagnol, faites-nous le plaisir de nous entretenir dans cette langue qui est la vôtre et que, par conséquent, vous devez parler avec plaisir quand vous en retrouvez l'occasion. »« Ah, parfait !» dit Aramis. Quant à Porthos, nous l'avons dit, toute son attention était concentrée sur un os de côtelette qu'il était occupé à dépouiller de son enveloppe charnue. « Vous demandiez donc ?» dit l'hôte en espagnol. « Je demandais, reprit Athos dans la même langue, s'il y avait deux parlements, un pur et un impur. « Oh, que c'est bizarre !» dit Porthos en levant la tête lentement et en regardant ses amis d'un air étonné. « Je comprends donc maintenant l'anglais ? J'entends ce que vous dites. « C'est que nous parlons espagnol, cher ami. » dit Athos avec son sang-froid ordinaire. « Ah, diable !» dit Porthos, « j'en suis fâché. Cela m'aurait fait une langue de plus. »« Quand je dis le Parlement pur, seigneur, » reprit l'hôte, « je parle de celui que monsieur le colonel Pridge a épuré. »« Ah, vraiment !» dit d'Artagnan, « ces gens-ci sont bien ingénieux. Il faudra qu'en revenant en France, je donne ce moyen à monsieur de Mazarin et à monsieur le coadjuteur. » L'un épurera au nom de la cour, l'autre au nom du peuple, de sorte qu'il n'y aura plus de parlement du tout. « Qu'est-ce que le colonel Pridge ?» demanda Aramis, « et de quelle façon s'y est-il pris pour épurer le parlement ?»« Le colonel Pridge, dit l'Espagnol, est un ancien charretier, homme de beaucoup d'esprit, qui avait remarqué une chose en conduisant sa charrette. C'est que, lorsqu'une pierre se trouvait sur sa route, il était plus court d'enlever la pierre que d'essayer de faire passer la roue par-dessus. Or, sur 251 membres dont se composait le Parlement, 191 le gênaient et auraient pu verser sa charrette politique. Il les a pris comme autrefois il prenait les pierres et les a jetés hors de la chambre. « Joli !» dit d'Artagnan, qui, homme d'esprit surtout, estimait fort l'esprit partout où il le rencontrait. « Et tous ces expulsés étaient stuartistes ?» demanda Athos. « Sans aucun doute, seigneur, et vous comprenez qu'ils eussent sauvé le roi. »« Pardieu !» dit majestueusement Porthos, « il faisait majorité. »« Et vous pensez, dit Aramis, qu'il consentira à paraître devant un tel tribunal ?»« Il le faudra bien, répondit l'Espagnol. S'il essayait d'un refus, le peuple l'y contraindrait. »« Merci, maître Pérez, dit Athos. » « Maintenant, je suis suffisamment renseigné. »« Commencez-vous à croire enfin que c'est une cause perdue, Athos, dit d'Artagnan, et qu'avec les Harrison, les Joyce, les Pridge et les Cromwell, nous ne serons jamais à la hauteur ?»« Le roi sera délivré au tribunal, dit Athos. Le silence même de ses partisans indique un complot. » D'Artagnan haussa les épaules. « Mais, dit Aramis, s'ils osent condamner leur roi, ils le condamneront à l'exil ou à la prison, voilà tout. » D'Artagnan siffla d'un petit air d'incrédulité. « Nous le verrons bien, dit Athos, car nous irons aux séances, je le présume. »« Vous n'aurez pas longtemps à attendre, dit l'hôte, car elle commence demain. » « Ah ça !» répondit Athos, « la procédure était donc instruite avant que le roi eût été pris ?»« Sans doute, dit d'Artagnan, on l'a commencé du jour où il a été acheté. » « Vous savez, dit Aramis, que c'est notre amie Mordante qui a fait, sinon le marché, du moins les premières ouvertures de cette petite affaire. « Vous savez, dit D'Artagnan, que partout où il me tombe sous la main, je le tue, monsieur Mordaunt. » « Fi donc, dit Athos, un pareil misérable ?»« Mais c'est justement parce que c'est un misérable que je le tue, reprit D'Artagnan. » « Ah, cher ami, je fais assez vos volontés pour que vous soyez indulgent aux miennes. D'ailleurs, cette fois, que cela vous plaise ou non, je vous déclare que ce Mordaunt ne sera tué que par moi. » « Et par moi, dit Porthos. » « Et par moi, dit Aramis. » « Touchante unanimité, s'écria D'Artagnan, et qui convient bien à de bons bourgeois que nous sommes. Allons faire un tour par la ville. Ce Mordaunt lui-même ne nous reconnaîtrait point à quatre pas avec le brouillard qu'il fait. Allons boire un peu de brouillard. » « Oui, dit Porthos, cela nous changera de la bière. » Et les quatre amis sortirent en effet pour prendre, comme on le dit vulgairement, l'air du pays.